Midi Martini.
Absolument. Avec Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagnan, Christian Robert et Luc Fortin, pour ce mardi 26 août, où entre autres il sera question de robotique, mais surtout de robots. Christian qui a vu un petit resto en Chine qui utilise du cheap labor.
Du cheap labor, hein? c'est le cas de le dire.
Ben, ça doit coûter cher.
Ça coûte à peu près l'équivalent d'un employé. C'est pour ça qu'il y a des questions éthiques
pas
à se poser.
Plus que ça.
Non. Ben, pour un an, un salaire d'un an, donc après, t'es rentré dans ton argent.
Ben, absolument.
Après un an, et comme les Chinois demandent des salaires de plus en plus élevés, c'est ce qui a fait qu'on...
T'as pas de fonds de retraite?
Non, t'as pas besoin de le payer.
Pas de bénéfices marginaux.
Ouais. Chose que t'as beaucoup de monde dans les rues. T'as beaucoup de monde dans les rues, par contre, qui vont voler peut-être ou qui vont,
ben oui.
qui vont être pauvres.
Ah, ça, c'est certain.
Une autre question.
Christiane, pourquoi vous voulez nous parler de Lois et Clark?
Ben parce que je vous en ai parlé l'autre jour, puis vous ne connaissiez pas, Christian, il ne les connaît pas non plus. C'est une exploration...
C'est un duo folk nord-américain.
Non, mais, qui a quand même inspiré, même si on ne l'écrit pas pareil, le nom de personnage d'un Superman.
Ah, Lois Lane et... c'est qui? Ken Clark?
Oui, voilà. Okay. Ça fait Lois
and
Clark. Et puis, parce que c'est un pan intéressant de l'histoire de l'Amérique, dans le sens large, des États-Unis, mais où ont joué un rôle important des Canadiens français et des Métis.
Mais là, est-ce que je vais en apprendre davantage sur la Louisiane? Parce que c'est, je pense, ce qui avait initié la discussion et la réflexion dans votre
tête. C'est pour ça qu'il y aura deux parties à cette chronique. Okay. Une partie aujourd'hui, une partie mercredi prochain.
Et la Louisiane, c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine?
Aujourd'hui.
OK. Fait que la semaine prochaine, je suis pas obligé de venir.
Ben là, je peux pas animer l'émission pour faire ma chronique en même temps.
Voyons donc, Jean-Sébastien, bonjour.
Allô.
On va causer, Jean-Sébastien. D'ailleurs, vous le savez pas encore, mais vous allez être obligé d'appeler à Windsor. Pas en Ontario.
Au palais de...
Non, pas à Buckingham. Non, en fait, on va parler à une fille de 16 ans qui est sur le point d'entamer son cinquième secondaire, Allison Morissette. Ou Allison Morissette, je ne sais pas comment elle prononce ça. Allison qui s'est mérité un prix dans le coin lorsqu'on a voulu souligner le bénévolat. Et non seulement elle a bien aimé, mais en plus elle a fondé une coopérative. Et ce qu'elle souhaite, c'est léguer ça aux autres jeunes qui vont continuer à son école secondaire, à savoir si elle va avoir le temps de faire du bénévolat au cégep. Elle a un an pour se questionner là-dessus, mais... on va lui causer, parce que c'est quand même le fun, une fille de 16 ans qui, comme ça, devient un modèle pour tous et toutes. Avez-vous vu cette histoire de Sébastien Thibault qui a suggéré à la Yann Martel qu'on envoie des livres à M. Leduc?
Oui.
Bolduc, devrais-je dire.
Bolduc.
Ouais. Oui. Bon, là, il s'est excusé. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas que sa boîte aux lettres soit engorgée de bouquins? Ma crainte, c'est que ça tombe à l'eau, cette initiative proposée.
En fait, moi, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée.
Bon,
on a voulu faire comme Yann Martel avait fait avec M. Harper, avec le postulat qu'il disait peu ou pas. Mm-hmm. Dans le cas de M. Bolduc, je sais, moi, de source de libraire, que c'est un bon consommateur de livres, en fait, un bon client. C'est plutôt qu'il a une mentalité ou une façon de voir les choses, des politiques surtout, qui font en sorte que ça devient, le livre, un privilège. Si vous avez l'argent qu'il faut, si vous êtes dans une famille amoureuse des livres, alors que le rôle des bibliothèques d'école est de donner cette chance-là à tout le monde.
Pourquoi donc ne pas donner à la bibliothèque d'école? En prenant l'idée de Sébastien Thibault, on se dit, OK, j'achète un bouquin, puis supposons j'ai un enfant, il n'y a peut-être pas les moyens, j'en achète deux, parce que imaginez si chaque citoyen donnait un livre, on n'aurait plus de problème de livres à la bibliothèque, puis il n'y aurait plus de raison l'analphabétisme et tout. Bon, je sais que ça prend plus qu'un livre, il faut le mettre dans les mains, il faut donner le goût, là.
Mais il faut le choisir aussi.
Oui, mais c'est pour ça que je me dis, j'aime peut-être mieux donner des sous à l'école que de donner un sixième Archie du volume 16.
C'est ça. Harry Potter a ses avantages pour sensibiliser les enfants à la lecture, mais une école a besoin de livres de référence. Faut que quelqu'un les choisisse dans un système logique pour qu'il y ait un bon éventail pour tous les cours.
Par contre, j'ai entendu un professeur qui disait « Si on donne l'argent à la bibliothèque, c'est la commission scolaire qui décide. Si on donne l'argent à la classe... » La classe peut acheter les livres bons pour les enfants de la classe. C'est tordu comme ça.
Il y a certaines écoles qui n'ont pas de local pour la bibliothèque.
C'est vrai.
Ah ouais.
Ça aussi, il faut penser à ça. Mm.
Mais on peut quand même donner des sous pour mettre des livres dans les mains des enfants qu'ils amènent le soir. Ils doivent avoir un petit comptoir quelque part quand même. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas de bibliothèque.
Non, souvent, c'est soit dans les classes ou soit des petits chariots qui se promènent, là, comme à la prison, dans une
unité. C'est un sujet pour nous, Christiane. Hein, on cherche un sujet pour demain. Oui. Là. Je sais pas qui, là, mais...
Si vous êtes un organisme qui donne des livres aux enfants, ça nous intéresse.
Oui, les bibliothèques d'école, ceux qui n'ont pas de local, que font-ils? Oui. Si jamais, là... 204, tiens. Le 282-1999, poste 204, pour rejoindre Jean-Sébastien Studio. Il va prendre vos coordonnées, puis on vous dérangera après l'émission. Christian?
Ben je trouve que c'est un peu déprimant que ce soit les gens qui doivent donner des livres. C'est toutes des bonnes idées, mais est-ce que vraiment ça coûte... J'ai aucune idée de combien ça peut coûter par année ou aux 5 ans renouveler les livres. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien. Ça doit être des millions de dollars, j'imagine, pour toutes les écoles. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu là comme société où on ne peut plus payer de livres? Moi, j'ai un malaise à chaque fois qu'on a des bonnes idées comme ça. Je trouve ça bien qu'on envoie des livres à M. Bolduc, mais c'est plus une blague qu'autre chose. On dirait que ça fait qu'on est vite.
Si on veut y montrer qu'on est sérieux et qu'on trouve ça important comme société, qu'on veut que l'éducation prenne plus de place que le mortier ou le béton dans les rues, ben.
Mais il fallait pas voter pour eux, à la base, c'est... en tout cas.
Non, mais c'est-à-dire que tu peux voter pour quelqu'un qui a ton idéologie. Tous les partis, en théorie, devraient s'entendre pour placer l'éducation comme quelque chose d'important, la santé comme quelque chose d'important. Après ça, bon, à savoir, est-ce qu'on tourne à gauche, est-ce qu'on tourne à droite, est-ce qu'on met du pétrole d'Anticosti? Tu sais, il y a des enjeux frontaliers, si on veut, mais l'éducation, la santé, on s'en sort pas.
Mais est-ce que c'est si important, l'éducation, pour ce gouvernement? Je sais pas.
C'est pas ça qu'il faut leur dire. Puis il faut leur montrer que c'est important pour nous comme citoyens.
Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, dans ses excuses, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit quelque chose que je pensais pas. Après coup, on peut toujours dire ça quand la réaction était négative à ce qu'on a dit. Alors, quand est-ce qu'on doit vous croire maintenant quand vous nous parlez, M. Bolduc?
Puis le problème, c'est que M. Bolduc voulait un gros ministère, mais en fait, il est pas à sa place. C'est quelqu'un qui a été en santé toute sa vie. Puis on reste avec cette impression qu'il y a eu ce ministère-là un peu par défaut, puisque M. Barrette était la star de la santé puis qui est arrivé chez les libéraux. Puis, fait qu'on reste un peu avec une impression que l'éducation... Moi, je reste avec cette impression-là que l'éducation, c'est pas si important si on met un peu n'importe qui à la tête de ce ministère-là.
Ça se peut, mais qu'est-ce que Christian Robert va faire? Tu sais, dans le sens, on peut tous dire ça.
Moi, j'ai pas voté pour...
Non, mais c'est pas grave, le problème est entier quand même.
Ouais.
On peut pas juste dire, bon, j'ai pas voté pour lui, donc... qu'on continue de caler encore plus. Tu sais, c'est comme... Quelque part, ça nous revient. Là, je dis pas que tout le monde, on est obligé de donner 25$ à l'école, mais il faut aller au-delà de « j'ai pas voté pour eux » ou « ça devrait être dans nos taxes ». On le sait, on a un manque. Les dettes, l'intérêt, le déficit...
Mais l'argent se perd aussi, c'est ça.
Oui.
C'est que moi, personnellement, pour vrai, je sais pas quoi. Depuis quelques années, je suis complètement désespéré. Je suis comme, on dirait qu'il n'y a rien à faire. On dirait qu'on se fait manger par ça. Puis on aurait pu nous dire, on coupe. Puis après, tu vois qu'on perd de l'argent partout. Puis on fait rien. J'ai pas l'impression que la commission Charbonneau va avoir changé les choses à long terme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Luc, mais je pose une question.
Vous êtes un Lambertois. Vous voyez Martin Smith qui arrive au conseil de ville en disant, moi, je propose une augmentation pour les conseillers municipaux, une augmentation pour le maire de la ville à Saint-Lambert. Comme résident qui voyait qu'on demande de se serrer la ceinture, peut-être même comme col bleu de la ville de Saint-Lambert, vous voyez la loi 3, vous voyez, vous réagissez comment?
Ben, il faut dire que, d'après les chiffres, ils n'ont pas l'air de gagner beaucoup. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi le travail d'un conseiller à Saint-Lambert particulièrement. On parle de 9 600 $ par année, je pense que j'ai vu le chiffre.
Ça ressemble à ça.
Et le maire gagne 29 000 $. Moi, j'étais vraiment étonné de ces chiffres.
Finalement, le maire gagne 29 000 pour son poste à Saint-Lambert même, mais comme il est membre de l'agglomération de Longueuil et il y a d'autres fonctions, ça monte à 80 quelques mille.
Oui, autour de 80 000.
C'est ça la chose qui nous manque souvent dans ces dossiers-là, c'est d'avoir des dossiers complets avant de pouvoir se prononcer. À savoir, c'est quoi le revenu réellement et tous les avantages que ramasse quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et ensuite, qu'est-ce qui est nécessaire pour en effet avoir des candidats de qualité quand même?
Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exercice-là, c'est que, je ne sais pas si on l'aurait fait, mais Christian, plutôt que de simplement dire « je suis contre parce que les élus, s'ils demandent aux autres de faire attention, doivent faire attention eux », Christian a regardé des chiffres. Et je trouve que souvent, comme citoyens, que ce soit de notre arrondissement, notre municipalité ou notre province-pays, on a tendance juste à réagir puis à dire justement qu'il s'arrange plutôt que de regarder et de dire « OK, bon, ce problème-là, c'est vrai que, mais quand je regarde les chiffres, c'est vrai aussi que... »
Le problème, le malaise dans tout ce qui est revenu des élus, je pense que le malaise provient beaucoup du fait que c'est eux-mêmes qui les votent.
Ouais.
Alors, il faudrait peut-être trouver un processus différent. Dans les commentaires, dans l'article sur le site de Radio-Canada, il y a quelqu'un qui disait, ben, on pourrait, comme c'est les gens de Saint-Lambert qui payent des taxes, parce que là, sur le site de Radio-Canada, tout un chacun se prononçait aussi. Il dit, comme c'est les gens de Saint-Lambert qui payent des taxes, il faudrait peut-être faire un référendum ou quelque chose comme ça. Ou sinon, faudrait... Mais là, ça, c'est pour un cas à la pièce. À plus long terme, il faudrait peut-être trouver un système... Parce que le malaise vient vraiment du fait de cette impression-là que la personne se vote
jugée partie,
qui vole un peu l'argent. De...
Ouais.
Mais d'ailleurs, les élus, ça fait longtemps qu'on dit, en tout cas, c'est peut-être pas comparable, mais au provincial, on dit que souvent, ils sont vraiment pas assez payés. D'ailleurs, on va faire une réforme bientôt par rapport à ça. On veut baisser les primes et augmenter les salaires. Parce que souvent au Québec, mais ça revient encore au fait qu'on a tellement l'impression de se faire voler depuis quelques années que dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle d'augmentation, on pense que c'est de l'argent qu'on perd, alors que pas nécessairement. C'est drôle un peu à dire, mais on revient souvent à cet argument que oui, s'il y a eu des élus qui ont été un peu croches, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez payés par rapport à leurs fonctions, par rapport à d'autres...
Bon, on se compare toujours au Canada. S'ils étaient juste croches pour 12 000 parce qu'il leur manque 12 000, c'est pas pire. Mais ils se disent souvent, tant qu'à être croche, on va y aller... All out, comme dirait l'autre.
Pourquoi faire les choses à moitié?
Ben oui.
C'est parce qu'en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans ce système-là qui considèrent qu'il leur manque 12 000, parce que c'est pas juste l'élu au bout du compte, il y a tous les fonctionnaires en cours de route. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs 12 000. Multiplié, ben, ça finit par faire de très grandes sommes.
Oui.
Puis les gens se comparent pas aussi des fois, tu sais, ils sont... Souvent, on voit des gens qui gagnent assez bien leur vie puis qui vont chialer, qui n'ont pas assez d'argent. Mais si tu te compares à un travailleur social, par exemple, qui fait un job extrêmement noble puis qui gagne quoi? 25 à 35 000 par année, tu sais. Moi, je suis entouré de gens un peu comme ça qui ne gagnent pas des gros salaires. Puis je suis entouré aussi de gens qui gagnent beaucoup de salaires. Et ceux qui chialent, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent.
Ouais, parce que
c'est drôle,
on se compare toujours à celui qui gagne davantage.
Ben oui, on se dit, ah, je fais juste 100 000, c'est pas beaucoup par rapport à ce que l'autre fait, mais... Un moment donné, c'est parce qu'il y a comme cette idée de collectivité, encore une fois, qu'il faut pas se comparer aux gens qui font 200 000, faut se comparer aux travailleurs sociaux qui gagnent 25 000 puis qui font un job.
Êtes-vous travailleur social?
Non, mais j'en connais des gens qui gagnent pas d'argent dans la vie, qui sont des artistes, qui sont travailleurs sociaux, qui travaillent dans des milieux plus... bon, je dirais pas à gauche, mais des milieux plus sociaux, tu sais. Puis l'argent est pas là.
Ne serait-ce que les enseignants, qui est une réunion...
Ben oui, exactement.
Les éducatrices en garderie.
Ben oui, les enseignants.
Qui sont des emplois sous-estimés. Ouais. Je connais beaucoup d'enseignants. Et le nombre réel d'heures travaillées dans une semaine, quand on additionne la correction, la préparation des activités...
De plus en plus
parce que
aussi.
C'est des gens souvent qui ont...
Alors que ceux-ci retournent au travail après 2 mois de congé. Je n'ai dit cela seulement que pour susciter les courriels.
Mais ils ne sont pas payés dans leur congé.
Envoyez-nous des courriels, là. Chicanez-nous, on aime ça. Pourquoi on écoute les Illinois, là?
Ben parce que c'est...
C'est quoi le lien avec Lois et Clark?
Parce que c'est une chanson qui nous rappelle, justement, aux Illinois, c'est comme la Louisiane, comme je vais dire tout à l'heure, comme l'Oregon, c'est des territoires qui, à l'époque, ne correspondaient pas nécessairement aux États qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est des territoires qui ont été parcourus par des francophones, et c'est pour ça que ça se retrouve dans nos chansons.
Alors, vous allez nous expliquer la moitié de tout ça aujourd'hui?
Oui.
On écoute les entourloupes. Thank you.
avait une jolie fille aux Illinois. Il y avait une jolie fille, elle est jolie et parfaite en beauté. Elle a ravi le cœur du marinier. Amène-moi dans ta chambre, beau marinier. Amène-moi dans ta chambre, mes envoyants. Cette grande beauté, elle a ravi le cœur du marinier. Chambre, mais quand il fut dans la plus haute chambre, on entendit que des embrassements. C'était la belle et son fidèle amant. Son autre amant qui est à la porte qui goûte. Son autre amant qui est à la porte qui goûte. Qui entendit tous ses embrassements. Disait grand Dieu que je suis malheureux. Jolie fille, d'avoir aimé une tendre jolie fille. Elle est jolie et parfaite en beauté. Elle a ravi le cœur du marinier.
Tourloupe, dont le chanteur soliste a une voix qui est un amalgame Richard Desjardins et le gars des Tireux de Roche, je trouve.
C'est Paul Marchand.
Paul Marchand. OK, on retient ça. D'ailleurs, vous serez, vous, aux tables tournantes du trad encore ce soir, puisqu'on est mardi.
Oui, en effet. Et j'ai me rendu compte que j'ai oublié d'aller chercher nos martinis qui sont dans le congélateur.
Non, vous avez dit, je vais écouter la chanson.
J'ai oublié complètement. C'est de la faute d'Entourloupe.
C'est sûr. Christiane Campagna, dont vous entendez la voix, est chevronnée en histoire. Et aujourd'hui, on parle de Lewis et Clark. Je présume deux noms de famille?
Oui. Okay. Je vais vous dire leur prénom un peu plus loin. Meriwether, si vous cherchez un prénom pour vos garçons. Longtemps, les colonies anglaises d'Amérique sont confinées à la côte est américaine. à l'époque que nous, on identifiait à l'époque de la Nouvelle-France. Pendant ce temps-là, justement, les explorateurs français, aidés par la Grande Paix de Montréal, dont j'avais parlé il y a quelques semaines, explorent l'intérieur du continent. À la veille de la conquête, les Français sont peu nombreux, mais sont partout, alors que les Anglais sont très, très nombreux et ont des colonies tournées vers l'Atlantique, un peu bloquées par les Appalaches. Au début du 19e siècle, la situation a changé. La Grande-Bretagne a conquis la Nouvelle-France et l'Acadie, qui sont donc désormais britanniques. Mais les colonies de la côte est américaine sont devenues les États-Unis.
Ouais.
C'est un pays indépendant. On commence un petit peu à aller vers l'ouest. On fonde les États du Kentucky, de l'Indiana et du Tennessee. Et l'expédition de Lewis and Clark, qui va suivre l'achat de la Louisiane, dont je vais vous parler dans un instant, est au fond le premier épisode de ce qu'on va appeler la conquête de l'Ouest.
OK.
Alors, en 1803, l'exploration du continent est rendue grosso modo aux Rocheuses. C'est-à-dire que la côte ouest, la côte du Pacifique a été explorée, mais par la mer, par de l'autre côté. Les Espagnols, les Russes et les Britanniques, ils font du commerce de la fourrure, font déjà du commerce avec la Chine, d'ailleurs.
Donc, les Britanniques connaissaient et le Pacifique et l'Atlantique?
Oui.
OK.
On connaît tout, mais... ce qu'on n'a toujours pas trouvé, c'est un bon passage intérieur.
Ouais.
La frontière à traverser, d'ailleurs, en anglais, on l'appelle parfois « the Great Divide », ce sont les Rocheuses, qu'à l'époque, les Amérindiens appelaient aussi les montagnes luisantes. Les fils de la Vérendrye se sont rendus aux Rocheuses sous régime français, mais ne les ont pas franchis.
À quelle hauteur?
Ce serait grosso modo... je pense que l'endroit serait aux États-Unis aujourd'hui, mais il faudrait que je revérifie. Mais ce qu'on cherche, c'est un passage efficace entre les deux océans, pour, entre autres pour favoriser le commerce de la fourrure. En 1793, il y a Alexander Mackenzie, un Écossais de Montréal, qui fait du commerce de la fourrure, qui réussit à traverser les Rocheuses et à se rendre jusqu'à l'océan Pacifique. Il se rend à un endroit qu'on appelle Bella Coola. Mais chez les gens qui l'ont envoyé là, qui sont des commerçants, lui avait vraiment une mission commerciale, on est très peu enthousiaste parce qu'il s'est rendu au Pacifique grâce à un très long portage. Alors, c'est pas une voie efficace maritime qu'il a trouvée. Donc, on n'est pas très content de sa découverte. Par contre, la publication de son journal de voyage dans les milieux plus érudits va avoir beaucoup de succès. Et parmi les personnes qui vont lire ça, il y a le futur président Jefferson.
Mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que souvent, aujourd'hui, on a tendance à rechercher l'exploit. Hein, que ce soit le plus long, le plus loin, le premier arrivé à. Et lorsqu'on parle de trouver la route vers le Pacifique, c'était vraiment côté affaires. Le gars arrive au Pacifique, mais on est déçu, c'est trop long.
Oui, parce que son voyage avait été financé par des marchands de fourrure.
J'aime ça.
Parce que même sous le régime français, on va voir on va pas le voir aujourd'hui, mais en fait, j'ai pu le constater dans des lectures dernièrement. La France payait pas les voyages d'exploration. Il fallait qu'elle s'autofinance par le commerce de la fourrure. C'était la philosophie de Colbert.
Mm-hmm.
Alors, un point en commun entre le voyage de Mackenzie et celui que feront Lewis and Clark, c'est l'importance des canoteurs et interprètes canadiens, français et métis et des guides amérindiens qu'on recrute en cours de route. Sans eux, tous ces exploits-là sont impossibles. Maintenant, j'en arrive à cette fameuse Louisiane qui vous intrigue.
Absolument.
Il faut clarifier justement ce qu'on entend par Louisiane quand on parle de l'achat de la Louisiane. C'est quand on achète la Louisiane en 1803, on double le territoire américain à ce moment-là. Donc, c'est tout le bassin ouest du Mississippi. C'est plein d'États américains. Alors, j'avais une carte puis je ne l'ai pas amenée. Je voulais vous nommer les États aujourd'hui qui en feraient partie. Mais ça vraiment, on double le territoire.
Okay.
Donc, c'est tout ce qui est le bassin hydrographique à l'ouest des États-Unis.
Mm-hmm.
La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que ce territoire-là n'avait pas été cédé à l'Angleterre à la fin de la guerre de 7 ans, quand la France a perdu avec le traité de Paris.
Ouais.
C'est parce que un an plus tôt, en 1762, par le traité de Fontainebleau, la France avait secrètement cédé ce territoire à son allié, l'Espagne. Et là, l'Espagne ne devait pas les mêmes choses à l'Angleterre et n'a pas été obligée de donner ça.
OK, mais comment se fait-il? OK, donc entre 1762 et 1803, de toute évidence, l'Espagne a quoi, rétrocédé à la France?
Oui, en 1800, l'Espagne redonne le territoire à la France. Ça aussi, c'est des... tractation compliquée, là. On est maintenant à l'époque des guerres napoléoniennes. Il y a toute de la géopolitique qui se joue en Europe. Et là, l'Espagne redonne ça à Napoléon, qui, bon, au début est intéressé, mais se rend bien compte qu'il n'a ni le temps, l'énergie, les troupes pour défendre ce territoire en Amérique, alors qu'il a besoin d'argent pour financer les guerres qu'il a déjà entreprises. Et c'est là qu'il propose aux États-Unis d'acheter la Louisiane. Ça coûtera 15 millions, soit 3 sous de l'acre. Les historiens disent parfois que c'était une aubaine, mais il reste que pour la jeune République qu'étaient les États-Unis, c'était s'endetter considérablement d'acheter ces territoires-là. Et c'est là que l'expédition de Lewis et Clark prend son importance parce que les envoyer découvrir le potentiel de ce territoire-là pour le président Jefferson, c'est une manière de montrer qu'il n'a pas acheté ça pour rien, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, entre autres en découvrant, on l'espère, cette meilleure route qui va relier l'Atlantique et le Pacifique et qui va favoriser le commerce de la fourrure. Le commerce de la fourrure, c'est pas propre au Canada. C'est toute l'Amérique. Ouais. On fait du commerce de la fourrure jusqu'au Mexique à l'époque.
Est-ce que nos deux oiseaux ont été mandatés ou ce sont des explorateurs qui ont fait ça un peu à leur compte? Et peut-être, si on trouve quelque chose, ensuite, on revend notre découverte au gouvernement.
Non, ils sont vraiment mandatés par le gouvernement. Et c'est ce qui fait la particularité de cette expédition-là et ce qui fait qu'elle est davantage passée à l'histoire que les voyages d'Alexander Mackenzie. Ce qui fait penser souvent à beaucoup d'Américains que Meriwether Lewis et William Clark ont été les premiers à franchir toute l'Amérique. On parle au nord du Mexique quand on parle de cet exploit-là. Alors que c'est Mackenzie qui l'avait fait avant. Ouais. Mais c'est que leur mandat est officiel, justement. Ils sont pas juste envoyés là par une compagnie. Et beaucoup plus large. Au fond, il est triple. Il y a de découvrir ce fameux passage par le Pacifique pour favoriser le commerce. Il y a d'annoncer à tous les habitants du territoire qui sont désormais des sujets des États-Unis d'Amérique. Okay. Il y a des histoires de drapeaux là-dedans.
Bon,
il y a des cérémonies.
Ça fait 25 ans déjà que c'est signé. 1776, bon, la bagarre, puis ensuite...
Non, c'est des habitants du nouveau territoire qu'on vient d'acheter.
Ah oui, c'est vrai, on vient de l'acheter en 1803.
Il y a du monde qui...
Ça faisait pas partie des États-Unis, ça,
voilà.
Encore.
Voilà, il y a du monde qui habite là-dessus. Peu d'anglophones, surtout des francophones, des métis, des Amérindiens, mais on veut quand même leur annoncer qu'ils ont un nouveau gouvernement.
Ouais.
Surtout que ça s'est passé vite, là. Espagne, Espagne, France... Et au point où, à Saint-Louis, où la majorité de la population est francophone, on va demander que quand même, pour quelques heures, il y ait le drapeau français entre celui de l'Espagne et celui des États-Unis pour qu'on se souvienne que ça a réappartenu à la France pendant un certain temps.
Ouais.
Et il y a un mandat scientifique. Les deux hommes ont pour mission de tenir des journaux et de prendre des notes sur la cartographie, surtout les peuples qui seront rencontrés. Dans les premiers temps, des peuples ayant déjà rencontré des Blancs, à la fin, de moins en moins. Et ils prennent aussi des notes sur la faune, sur la flore. Et c'est là toute la richesse. La semaine prochaine, je vais parler davantage des retombées. Elles ne sont pas que politiques, elles ne sont pas qu'économiques. C'est toute la connaissance du continent qui a augmenté avec cette expédition.
La durée de l'entreprise en question? Ils sont partis quand?
Ah, ça dure un bon 2 ans.
Deux ans.
C'est très, très long parce que l'hiver, on est souvent arrêté. Le départ officiel se fait en 1804 de Saint-Louis et c'est vraiment très, très long. Puis c'est ça, on doit hiverner à certains endroits parce que la route à l'époque, c'est l'eau.
Oui.
C'est là qu'est toute l'importance de ces gens qu'on recrute. À bord, il y a nos deux dirigeants, des soldats américains. Un esclave noir, qui est l'esclave de Lewis Clark, qui habitait à la Nouvelle-Orléans.
Ça prend toujours une minorité visible. On avait compris ça déjà dès le départ.
Mais surtout, il y aura beaucoup, beaucoup de Canadiens français et de Métis qui serviront de rameurs, de guides, d'interprètes. En route, on recrutera, entre autres, Toussaint Charbonneau et sa femme, qui était une Shoshone, qui avait été enlevée par les Mandanes. Ce qui fait qu'elle sera une interprète très, très importante. Et je vous raconterai la semaine prochaine, Sacagawea représente toute une légende aux États-Unis au point de s'être retrouvée sur de la monnaie à certaines époques.
Wow.
Et son bébé, parce qu'elle vient d'accoucher au début. Elle accouche au début de l'expédition. C'est Clark, je pense, ou Lewis qui l'accouche après lui avoir donné...
Mon Dieu, polyvalent.
Oui, vraiment. Donc, la semaine prochaine, je vais m'attarder... au trajet, au fait saillant, au rôle des Canadiens et des Métis et à la fameuse légende de Sacagawea.
Là, je veux juste... Meriwether Lewis.
Oui.
C'est un homme malgré son prénom?
Oui.
OK.
C'est le secrétaire particulier de Jefferson qui recrute Lewis Clark, qui est un ancien collègue d'armée de l'époque de la guerre d'indépendance.
OK. Bien là, on va vraiment faire un saut de 180 degrés parce qu'on va parler de robots dans une minute. Madame Campagna effectue le service de notre petit drink du jour. Merci beaucoup, Christiane. Quelle couleur aujourd'hui?
Rouge.
Rouge. Okay.
Vous avez
rouge
des rosé. Rouges et Jean-Sébastien et moi avons des jaunes.
OK.
Goûtons-y.
Ah oui, hein? Blanc. Oui, oui, oui.
Santé. Bon, ben... Oh, il est un peu glacé.
Oui. C'est de la slush.
Je suis venu il y a deux semaines, le Cody qui était content, c'était plus glacé. Puis là, wow. C'est vraiment très, très
c'est
glacé.
Le, c'est le plus croustillant de l'été. On aime ça.
Ah, ça fait du bien quand
c'est
même.
C'est des spéciales canicules.
Oui.
Oui, puis c'est tout à fait bien indiqué. Parlez-nous robots, Christian. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée?
Ben justement, pourquoi je parle de ça, c'est que c'est drôle. Le 14 août, il y a eu deux articles qui parlaient de robots. Puis bon, je me suis dit, je vais faire une chronique scientifique dans une semaine et demie. Alors, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'il y en a beaucoup en science-fiction. Le robot, on connaît ça, mais... Je voulais vraiment savoir c'était quoi l'avenir du robot puis comment ça pouvait réellement nous aider. Parce que souvent, on pense que c'est des gadgets. On dirait que les Japonais travaillent sur des robots puis on se demande vraiment ça va être quoi la réalité dans notre quotidien, vraiment.
À part le Roomba, là, qui passe l'aspirateur.
Oui, bien, il y a évidemment pour le ménage. Mais bon, en faisant des recherches, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on avait beaucoup de robots dans notre entourage. J'en parle dans deux minutes. Mais ce qui m'a vraiment donné le goût de parler de ça, c'est premièrement un article du Monde qui parlait d'un restaurant qui venait d'ouvrir cet été, un restaurant futuriste de l'Est de la Chine où cuisiniers et serveurs sont des robots.
Ah, même le cuisinier?
Oui, les cuisiniers sont des robots. Ils sont aidés par des personnes qui préparent les ingrédients, mais c'est vraiment les cuisiniers qui... Moi, bon, l'idée d'avoir un cuisinier robot, c'est vraiment pas excitant pour moi, là, parce que je trouve que la cuisine, c'est tellement un art de délicatesse et d'amour.
Pour une chaîne? Pour une chaîne, c'est toujours la même recette?
Ben, moi,
ça
ma première job, c'était au McDo à 15 ans, puis je pourrais dire que j'aurais pu être un robot, ça aurait pas fait grand
différence. C'est sûr.
Bien sincèrement. Ouais. Deuxième article, c'est dans le Journal de Québec, on dit qu'il y a une chaîne d'hôtels aux États-Unis qui teste un robot pour le service aux chambres. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai lu dans l'article, ils disent que ça existe déjà dans le milieu hospitalier. Il y a déjà des robots qui s'appellent Tugs, T-U-G, de la compagnie Ethan, qui sont présents dans 140 hôpitaux aux États-Unis et qui font le transport de marchandises, de matériel médical, en fait, des médicaments, des draps, pour aider les infirmières.
Okay.
Je trouvais que c'était intéressant parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment plus avancé que je pensais, les robots.
On pourrait prendre le chiffre de nuit.
Le chiffre de nuit. Mais ouais, puis je pense que vous en avez parlé la semaine passée aussi de robots qui volent nos jobs.
Ben, c'est la crainte.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais vraiment essayer de voir c'est quoi les dangers, mais aussi c'est quoi les aspects vraiment positifs. Bon, des robots, il y en a déjà aujourd'hui, on les connaît. Il y a les robots qui désamorcent des bombes, il y a les robots dans les chaînes de montage, la robotique industrielle, ça fait quand même assez longtemps que c'est présent. Il y a aussi la Google Car qui vient de sortir, la voiture autonome, on pourrait quasiment qualifier ça de robot. J'ai cherché d'ailleurs la définition exacte de robot dans le Larousse.
C'est intéressant.
Ouais, appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la robotique s'en va vraiment... ça se développe de plus en plus. Je sais pas si vous avez vu le film de Spielberg, Intelligence artificielle. Ça parlait un peu de l'éthique des robots. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? L'intelligence artificielle, ça, c'est vraiment C'est très poussé, là, mais on se rend compte qu'on s'en va quand même un peu vers ça. La robotique, ça va servir plus tard pour la cuisine, le ménage, on en parlait. Aussi pour la guerre, hein, les États-Unis investissent énormément en recherche pour remplacer certains soldats, souvent dans des zones plus difficiles d'accès. On pense à la médecine ou
mais
des robots.
Mais si on tue d'autres robots, c'est une invention prodigieuse. Ben, si par contre, les robots vont tuer des humains, là, c'est un peu lâche.
C'est lâche, mais en même temps, je pense qu'on s'en va déjà vers ça, avec les drones justement, qui n'ont pas de pilote, avec tout ce qui est sans pilote. C'est assez effrayant, et en même temps, ça sauve des vies. Mais c'est parce que, encore une fois, je vais en parler un peu plus tard avec l'assistance aux personnes vulnérables et handicapées, mais c'est qu'on, j'ai l'impression que ça va créer deux classes de pays ou de personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir se payer des robots et les autres. Et j'ai l'impression que la robotique va venir accentuer l'écart entre ces personnes ou ces pays-là. C'est mon impression, là. C'est pas très scientifique, mais comme par exemple, je vais parler tout de suite dans le fond parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus, l'assistance aux personnes vulnérables. On parle de bras robotisés adaptés à votre fauteuil roulant, on parle même d'exosquelettes. Ça, c'est carrément un robot qui peuvent t'aider à bouger, hein, pour les personnes handicapées. Ça pourrait être très intéressant. Et l'aspect le plus intéressant de ça, c'est je suis tombé sur un article qui parlait de ça et on parlait beaucoup d'intégration sociale, à quel point les personnes handicapées, ça les isole en fait de ne pas pouvoir bouger, d'avoir des contraintes physiques et tout ça. Et peut-être que les robots vont faire en sorte que les personnes handicapées vont plus être présentes dans la rue, plus être présentes dans la société en général et que finalement, ça va permettre un peu... Tu sais, je me rappelle plus c'était quand, Luc, mais on parlait de pourquoi est-ce que c'est pas une priorité les personnes handicapées dans nos sociétés. Ouais. Ben, c'est peut-être parce qu'on les voit pas tant que ça non plus. En tout cas, je trouvais que c'était un point intéressant que la robotique... pouvaient faire sortir les gens et finalement qu'en tant que société, on prenne conscience qu'ils sont là, ces personnes-là. Mais bon, c'est des coûts, c'est ça l'affaire.
Oui,
là.
Non, ça c'est certain.
On parle d'un robot, là, je vous parlais du robot, je pense que c'est le robot là, chinois là, qui fait de la cuisine, c'est 40 000 yuan, ça fait 7 000 par année que ça coûte. Oui, c'est ça, j'ai dit 40 000, excusez-moi, je me suis trompé avec des... c'est 7 000 $ par année que ça coûte. C'est rendu à peu près l'équivalent du salaire annuel moyen d'un employé d'une chaîne de restaurants en Chine. Parce qu'aussi en Chine, les salaires ont augmenté, on sait, c'est un pays qui se développe. Ouais. Alors, c'est très peu cher encore aujourd'hui, effectivement, mais c'est ça qui est un peu
terrible.
Même
dans les pays industrialisés, là, tu remplaces un jeune de 16 ans... avec un robot de 7000 $ c'est peu cher, puis t'as jamais, il est jamais en retard.
C'est ça qu'il disait, c'est qu'il y avait des avantages, qui sont pas malades, qui font toujours le même boulot, mais en même temps...
jamais.
Hein? Bon, sûrement, oui.
Ils brisent jamais. Ils sont peut-être pas malades.
C'est ça le problème. Et quand je lisais un article sur les dangers de la robotique, c'est qu'on disait qu'on n'était pas du tout rendu au stade où il n'y a plus de failles. Parce que pour qu'un robot puisse aider une personne handicapée, par exemple, faut pas qu'il y ait de bugs, là, parce qu'on peut s'imaginer toutes les erreurs possible. Ça peut être extrêmement dangereux, le robot pour l'humain. C'est d'ailleurs, en tout cas, c'est ça qui est... Je sais
115
km/h
sur l'autoroute, là, si c'est la voiture Google qui est mal programmée, puis c'est moi qui est dedans, c'est sûr que ça peut
Mais
causer...
vous, est-ce que vous vous achèteriez, mettons que c'était déjà commercialisé et très... ça commence à l'être, mais est très abordable, une voiture autonome? Personnellement, premièrement, je suis pas sûr que l'être humain a envie de laisser le contrôle, et deuxièmement, je suis pas sûr... que l'être humain se sentirait à l'aise au début du moins, à moins que cette technologie-là devienne infaillible, mais il n'y a aucune technologie infaillible.
La question de la fiabilité joue vraiment beaucoup là-dedans. Il y a comme ces petits non-sens, vous savez, on rigole souvent avec ça, là, mais est-ce qu'il va falloir continuellement l'éteindre, sortir et remonter dedans pour qu'elle parte, là? la solution? Puis ça me choque presque, moi, quand j'arrive à régler un de mes problèmes informatiques comme ça. Genre, je vais essayer d'éteindre mon cellulaire et de le rallumer, et ça fonctionne. C'est presque une insulte à mon intelligence que ça a été ça,
la solution. Je me permets de faire le parallèle. L'être humain fonctionne comme ça. On fait ça tous les jours lorsqu'on va se coucher.
Oui, merci.
On fait un reboot.
C'est vrai. J'ai vu passer une nouvelle récemment comme quoi la Google Car avait eu un accident, mais que finalement, c'était un moment où elle n'était pas en mode automatique. Il y a quelqu'un qui la conduisait.
Mais à quel point... C'est moins dérangeant quand c'est un humain qui fait une erreur, parce que bon, on a nous à blâmer, mais quand c'est comme un robot. Puis tu sais, je me demande, les ordinateurs, on dirait que la technologie devient de plus en plus moins de qualité. Si on veut, t'achètes des ordinateurs, c'est rendu que ça coûte moins cher, mais bon, ça dure moins longtemps. Est-ce que ça va être la même chose avec le robot? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une démocratisation des robots qui vont coûter moins cher, mais qui vont être moins fiables? Encore une fois, ça va amener deux classes de personnes. Et quand c'est rendu que le robot aide une personne handicapée ou est tellement nécessaire dans ta vie, je trouve ça un peu dommage que... Non, que mais ça se mette à créer des classes sociales.
J'aime
cause
toujours
de...
dire que les chiens guides, les aveugles ont les meilleurs chiens, puis les personnes handicapées qui ont des chiens d'accompagnement ont le restant. De toute façon, c'est vrai aussi, là, les chiens d'accompagnement sont... Donc, parfois, selon le besoin, tu vas utiliser une technologie plus coûteuse, plus élaborée, et pour d'autres, ben, ce sera des choses peut-être moins complexes parce que le besoin est autre.
Ça pose aussi des questions sur le plan de l'éducation, je dirais, parce qu'on parlait du fait que ça prend des emplois. Ça veut dire que les emplois d'avenir, ce sera le créateur ou le réparateur de robots plutôt que la personne qui prépare le hamburger dans la chaîne. Donc, forcément, il va y avoir des emplois, mais des emplois qui vont demander des connaissances.
Mais les libéraux l'ont dit, les jeunes libéraux, qu'on mette l'accent sur les DEP.
Ben, en fait, c'est là
que
je suis pas d'accord.
Je pense que pour faire un robot, ça te prend plus qu'un DEP.
Oui, mais c'est justement...
J'ai l'impression
en fait...
qu'au contraire, les gens qui vont faire des DEP, il y aura moins... Tu sais, on peut penser qu'un plombier va être un robot. On peut penser que... On parle dans 100 ans, dans 200, dans 1000 ans. On peut penser que les robots vont remplacer tous ces jobs-là. Alors, qu'est-ce que les gens qui ont
tant
peut-être
pas... Tant
que ce
ne soit pas des robots qui réparent des robots.
Parce que le modèle proposé par les jeunes libéraux, axé sur le marché du travail, souvent forme des travailleurs qui manquent justement de polyvalence et qui ont plus de difficultés à se recycler quand une découverte technologique change le milieu de l'emploi. Tandis que quand tu as appris à apprendre, à penser, ta chance de te recycler, selon moi, est meilleure.
Ah, les robots. Je finis peut-être cette chronique avec des exemples un peu nono de robots. Question de finir la chronique en légèreté. Il y a des robots acteurs. J'ai lu ça. Ils ont fait une pièce en Suisse avec 3 robots acteurs. Je ne sais pas combien ça a coûté. Ils ont du budget, contrairement à nos productions ici. Mais quand même, en 2009, en Suisse, ils ont fait ça. Il y avait 3 protagonistes qui étaient des robots. J'aurais aimé voir ce spectacle-là. Sinon, il y a Asimo, qui est un robot hyper connu. C'est fait par Honda. Lui va peut-être aller sur la Lune. C'est lui qu'on pense qu'il va pouvoir aider les gens. Bon, ça, c'est moins drôle, mais c'est juste pour dire Asimo, gardez ce nom-là en tête. Au Japon, on peut acheter des poupées robots à son effigie. Oh. On peut leur donner notre voix et ils nous répondent. Ils peuvent nous dire la météo, notre horoscope avec notre propre voix et notre propre
horoscope.
Visage.
Ça fait 10 000 piastres pour savoir son horoscope.
D'ailleurs, allez taper robot sur Internet, robot Android. Puis...
Il y a des organes de presse maintenant que c'est la manchette est générée automatiquement par ordinateur.
Expliquez-moi comment ça fonctionne.
Ben oui.
C'est une nouvelle que j'ai vu passer, ça fait déjà un moment, mais c'est ça, c'est à partir de certaines données de fil de presse qui rentrent, d'agences de presse, j'imagine, le robot génère une manchette.
Mais lui-même
sans
a pris sa manchette.
Sans faire de jeu de mots, probablement, dans le titre.
Ça prenait quand même des humains pour... au départ, initier ou mettre les connaissances sur le web.
Oui, j'imagine. Ouais. Je ne sais pas si les robots vont écrire « Le vent du Nord a le vent dans les voiles ».
Peut-être pas au début, mais avec l'intelligence artificielle, ça va devenir coutumier.
Oui, parce que l'intelligence artificielle, on le voit, ça devient de plus en plus développé. Il y a des robots. On a été capable, avec Asimo, dont je vous parlais, de lui donner des commandes par l'esprit.
Ouais.
Alors, on a été capable de lui envoyer « marche vers en avant, tourne à droite » seulement par l'esprit. Bon, ça, c'est plus ou moins d'intelligence artificielle, mais on est vraiment en train de travailler pour que des robots aient des émotions. Oui, c'est de la télépathie d'une certaine façon. Bon, c'est fait par ordi, mais il y a aussi au Japon, on travaille beaucoup sur l'émotion des robots. Ça, moi, ça me fait un petit peu plus peur. Une dernière peut-être chose, c'est les bras bioniques. Ça aussi, ça vient de sortir cet été. Les Américains ont décidé de légaliser ces bras-là et c'est rendu extrêmement complexe. C'est rendu qu'on peut sentir le toucher avec des influx électriques. C'est vraiment rendu loin. On peut manipuler le bras. Là. Ça va évidemment coûter très cher. Mais moi, je me disais, les États-Unis, lieu de chirurgie esthétique, on parle beaucoup de ces prothèses bioniques. Ça va être quoi l'avenir de ça dans un pays qui est aussi libéral, si on veut? Est-ce qu'on va se mettre à changer nos bras pour courir plus vite? Est-ce que...
Mais on fera la même chronique dans 20 ans.
Ben,
moi, ça me rappelle l'homme et la femme bionique, les séries des années 70.
Ben, c'est sûr. Et Max, le chien. Jamie, Steve et Max. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, tiens, c'est du Damon Albarn, qui nous chante le robot. Et ensuite, on va établir la communication avec Windsor en Estrie. C'est pas inintéressant, ça. Damon Albarn avec Everyday Robots. Bonjour, Alison Morissette.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous?
Oui, merci. C'est gentil. 16 ans, 5e secondaire. D'ailleurs, avez-vous commencé?
Pas encore, jeudi.
Jeudi, à l'école secondaire du Tournesol. On le disait, c'est en Estrie. Vous avez reçu le prix du bénévole de l'année jeunesse lors de la semaine bénévole de la tête aux pieds à Windsor. Et ce que je lisais dans le texte de la tribune qui nous a aiguillés vers vous, c'est que vous avez décidé à un moment donné de vous lancer quoi dans le conseil étudiant de l'école? Ça a commencé comme ça?
Oui, j'ai commencé par m'inscrire dans le conseil étudiant qui faisait une réunion par mois dans mon cas. Ça m'a vraiment initié au bénévolat. Là. C'est là que ça a commencé.
Ouais, on dit justement dans l'article... intitulé « Le bénévolat heureux qu'est-ce qui vous plaît dans le concept même du bénévolat?
Tout, vraiment, complètement tout. Comment qu'on grandit là-dedans, comment qu'on fait des rencontres, comment qu'on fait des beaux gestes. C'est quelque chose qu'on dirait qu'on n'a plus l'habitude de faire des BA. Quand on en fait une, ça fait tellement du bien. Puis je crois que dans le bénévolat, c'est pas mal ça qu'on fait. Des bonnes actions, qu'on donne de notre temps pour les gens. Donc, le bénévolat, j'aime tout. J'aime les sourires, j'aime justement, comme je disais, comment on grandit, comment on apprend. Là, je crois que c'est une des plus belles choses qui existent pour vrai, là, qu'on peut aller chercher sans payer et sans recevoir nécessairement de l'argent en retour.
Mais en même temps, Alison, souvent, le bénévolat, on s'en aperçoit pas. Hein, je veux dire, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On s'implique dans cette cause-là, que ce soit un sport, les petites ligues, les louveteaux, les scouts, et on aide son prochain. Est-ce que des prix comme celui que vous avez reçu, ça aide ou ça, disons, ça glorifie quelque chose que, somme toute, on devrait tous faire?
Oui, bien, qu'est-ce que je crois que ça fait? Puis je suis vraiment heureuse. Ça fait de la reconnaissance, mais je trouve que ça va pousser les jeunes à voir le bénévolat autrement. Parce que mon but à moi, avec le comité que j'ai fait et avec les actions que j'essaie de faire, mes apparitions où que je peux, c'est vraiment promouvoir le bénévolat auprès des jeunes, leur montrer c'est quoi le bénévolat. C'est pas juste quelque chose que les personnes âgées font, que les personnes plus vieilles font. C'est juste des petites actions. Puis c'est simple, c'est des projets comme le nôtre, la coop relève d'un Val vivant. Si on prend les idées des jeunes et on les apporte, c'est une forme de bénévolat que les jeunes ne voient pas habituellement.
Pourquoi, justement, vous avez décidé d'initier la coopérative Relève d'un Val vivant plutôt que de rester dans le conseil étudiant?
L'année que j'ai fait le conseil étudiant, j'avais commencé avec une idée. Donc, j'ai allé voir Rénal Dionne, un homme qui travaille à l'école, qui nous supporte justement... Et justement, j'allais le voir parce que je voulais faire quelque chose. Au début, j'avais vraiment l'idée de juste faire un projet l'année. J'avais pensé aider une fondation. Mm-hmm. Donc, l'idée d'aider la fondation du C3S du Val-Saint-François, de là, monter un comité, la relève. Et l'année qui a suivi, ça a été la coopérative Relève d'un Val-Vivant. Donc, moi, mon but au début, c'était juste d'aider. Et ensuite, je suis allée vraiment chercher des gens qui voulaient le faire d'eux-mêmes. Et l'année suivante, on est reparti avec une idée. Bon, là, on fait une coopérative, on s'inscrit dans l'Estrie. Et là, les jeunes peuvent vraiment s'impliquer et venir dans le comité pour faire du bénévolat avec nous.
La différence entre être, disons, une coopérative et simplement un mouvement d'étudiants?
C'est sûr que là, présentement, on est reconnu par l'Estrie, ce qui est quand même un avantage. Parce que lorsqu'on organise des événements, les gens, les commanditaires nous connaissent plus, donc ça nous donne un peu plus de facilité à aller chercher des gens. Deuxièmement, la façon qu'on est organisé, ça va beaucoup mieux. Donc, on a un système avec une présidence, les secrétaires et tout. Donc, ça fait plus de structure, donc on avance plus vite dans nos projets. Et en plus, vu qu'on est dans une école, c'est bon de qu'il y a un apprentissage là-dedans. Donc, les gens savent comment ça fonctionne dans une coopérative également. Donc, encore une fois, ça fait de l'apprentissage pour plus tard, si jamais ils veulent décider de s'impliquer dans une autre coopérative, parce qu'on sait qu'il y en existe plusieurs.
Justement, bon, je connais pas Windsor, mais je sais que c'est pas nécessairement une métropole. Est-ce qu'il y a d'autres écoles secondaires dans votre coin et est-ce que les autres écoles pourraient être intégrées à la même coopérative pour en faire une coop plus forte?
Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est aller chercher l'école de Valcourt, l'école secondaire Valcourt et Richemont.
Okay.
Donc, notre but, dépendamment de comment ça va aller cette année, c'est sûr qu'on aimerait ça implanter la coopérative dans les autres écoles, puisqu'on est la coopérative relève d'un Val vivant.
Ouais.
Donc, ça implique le Val entier. Ce serait une des plus belles choses qui pourrait arriver, puisque ça ferait juste plus de groupes et plus d'élèves qui peuvent s'impliquer dans leur école puis dans leur ville.
Oui, pour une cause commune. D'ailleurs, le Val dont il est question, c'est le Val Saint-François.
Oui.
La Fondation a quoi comme mission? Et, entre parenthèses, ce que je lisais dans l'article, c'est qu'à chaque année, la coopérative se donne le droit de changer le ou les bénéficiaires de vos activités. C'est pas obligé d'être nécessairement pour le Val Saint-François.
Non. Donc, la Fondation, au début, celle qu'on a aidée, le C3S du Val Saint-François, eux autres, ils ramassaient l'argent qu'on leur donnait et ils l'investissaient dans des équipements, dans des soins, parce que eux autres, ils fonctionnent beaucoup avec l'humanisation des soins. Donc, l'installation de meilleures salles d'attente, de meilleures salles pour les aînés également. Donc, ça a beaucoup servi à ça. Et on a fait 13 aînés qui servaient à réaliser le rêve d'une aînée. Mmh. Pourquoi on a décidé qu'on n'allait pas s'attacher directement à la fondation? La raison est simple. On veut que les jeunes choisissent eux-mêmes où ils vont s'en aller. Notre but, c'est de prendre des idées et de les concrétiser. Donc, un jeune pourrait dire, on a une belle maison des jeunes à Windsor qui serait peut-être à rénover l'intérieur. Donc, un pourrait dire, ben moi, j'aimerais ça qu'on peinture la maison des jeunes. Donc, ça pourrait être aussi simple que ça comme projet, mais on va le réaliser.
Ouais. Le défi sera de convaincre les jeunes de Valcourt de travailler pour la maison des jeunes de Windsor.
Oui, c'est ça. Mais des fois, à Valcourt, ils peuvent avoir des idées d'organisation. Des fois, ça peut être un événement qu'ils veulent faire pour les jeunes ou pour les familles. Ça va vraiment aller avec leurs idées. Parce que souvent, on trouve que les jeunes, on se fait dire qu'on fait rien, les jeunes. Nous, on veut montrer le contraire. Quand on nous donne les possibilités de le faire, on peut le faire. On a organisé un souper, on a organisé un événement pour une jeune femme. On en fait des choses, pas juste pour nous. Puis c'est ça qu'on veut vraiment démontrer. Donc, si on se serait attaché à une fondation ou à un organisme quelconque, je crois qu'on n'aurait pas pu autant laisser libre aux idées des gens.
Est-ce que vous trouvez difficile d'essayer de convaincre les jeunes et est-ce que c'est difficile de recevoir des refus?
Les refus, je crois pas que c'est si difficile que ça. Aller les convaincre, c'est une tâche ardue. La première année, je suis allée voir des filles directement que je savais qu'ils voulaient s'impliquer. Je sais que c'est des filles incroyables. Franchement, là, c'est des filles avec un gros, gros cœur, avec plein d'amour à donner, plein de temps. Donc, je suis allée voir ces filles-là directement. L'année après, ça a été un peu plus dur d'aller chercher d'autres filles. On a réussi à se remettre un autre groupe. Ensuite, quand c'est arrivé le temps d'aller des bénévoles, c'était incroyable. Ça a été tellement rapide qu'on a été obligé de refuser des bénévoles pour le souper concret. Parce qu'on avait juste trop de bénévoles qu'on ne pouvait pas leur donner des tâches. Donc, je crois que ça s'améliore, mais oui, c'est tout le temps difficile.
Vous avez parlé beaucoup de filles. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons qui font du bénévolat?
Présentement, dans notre comité qu'on avait, on était plus de filles que de garçons. Toutefois, quand on a eu le souper, aller chercher les bénévoles, on avait garçons et filles autant. Donc, c'est juste aller les intéresser. Il y a un garçon que je suis allée voir une année, puis j'ai demandé, t'aimerais-tu être bénévole pour le souper? Il a essayé, il a apprécié vraiment, il a aimé son expérience. Après, on faisait du recrutement dans l'école pour un autre événement. Et on est allé rechercher ce garçon-là qui est revenu faire du bénévolat et il aime ça, il a vraiment pris goût à ça. Puis c'est ça qu'on veut que les jeunes voient, que tu y prends goût facilement.
Alison Morissette, c'est votre dernière année. Est-ce que vous pensez que la coopérative Relève Val va poursuivre après votre départ au cégep?
J'espère beaucoup. Cette année, c'est vraiment mon but, c'est être un peu un mentor pour les nouveaux jeunes qui vont vouloir s'inscrire dans la coopérative, leur montrer comment qu'on fonctionne, pourquoi ils devraient s'inscrire, un peu vendre la coopérative, parce qu'on veut pas que ça s'éteigne, c'est sûr. Ouais. On a fait beaucoup de démarches, on est rendu là, on commence à se faire connaître, ça serait plate que ça s'éteigne. Si jamais ça arriverait, ben je pourrais pas faire grand-chose de
non.
plus.
Mais ce qui aurait été fait aura été fait.
Et voilà.
Et effectivement, on souhaite que d'autres prennent le bâton de la pèlerine. Merci beaucoup, Alison Morissette.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci, Christian. Merci, Christiane.
Merci.
Et c'est Sophie qui s'en vient avec une autre de ces belles rencontres. À demain!